à Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VO Africa, Washington. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 23 février 2018. À la une ce soir, les donateurs ont promis plus de 400 millions d'euros au G5 Sahel pour combattre les groupes djihadistes. Les Djiboutiens étaient appelés aux urnes pour les législatives, boycottées par une partie de l'opposition. Au Tchad, près de 300 personnes recouvrent la liberté après un décret du président Idriss Déby Itno. RCA, tension au quartier PK5 de Bangui, au moins 3 personnes tuées. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En RC, en RDC, les catholiques en prière à 2 jours de la marche anti-Kabila, à genoux debout, mains jointes devant l'autel, des fidèles catholiques ont prié aujourd'hui à Kinshasa pour la paix en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, à l'appel du pape François, à 2 jours d'une nouvelle marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont ils veulent qu'il déclare publiquement qu'il va quitter le pouvoir. Interdites, les dernières marches ont été sévèrement réprimées. Dans la capitale centrafricaine Bangui, le quartier musulman du kilomètre 5 est de nouveau en proie à une nouvelle flambée de violence suite à une histoire de braquage entre les éléments de force, un groupe d'autodéfense et ceux de Yu, un des chefs de la faction rivale. Ces incidents ont provoqué la mort de 3 personnes, dont une femme musulmane, et de nombreux blessés. Félix Yepassi Zembro a joint Anour Liman, président du Cercle de la jeunesse islamique centrafricaine, pour le développement.
Selon le bilan, il y a eu 3 morts et plus de 7 blessés. Il y a des civils aussi qui ont reçu des balles perdues. Il y a eu malentendu entre les 2 factions des autodéfense qui a dégénéré une séquence de tirs. Donc, ce matin, nous sommes reliés vraiment sur les détonations des armes lourdes et des grenades de tous les calibres. Il y a 2 factions, donc l'autodéfense, faction de You et de Force. Donc, c'est eux qui se sont échangés. C'est-à-dire qu'il y a un problème interne quoi, concernant la gérance du marché. C'est ça qui a dégénéré tous ces genres de problèmes. Maintenant, il y a la calmer, donc on est en train de gérer la situation. Merci aussi au ministre de l'Intérieur, donc il a pu venir au niveau du kilomètre 5, raconter les 2 belligérants juste pour leur dire que vraiment il faut qu'ils cessent leurs actes parce que la population veut la paix. Il faut qu'ils contribuent pour le développement et contribuent sur la cohésion nationale.
Anour Liman, président du Cercle de la jeunesse islamique au quartier PK5 de Bangui. Au Tchad, 295 prisonniers de droit commun ont été libérés ce vendredi en application du décret de remise collective de peine signé du président de la République Idriss Déby Itno. On fait le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjinga.
295 pensionnaires de la maison d'arrêt de N'Djamena ont reçu des mains des autorités judiciaires leur certificat de remise en liberté de 5 ans. Ceux qui ont été condamnés à plus de 5 ans doivent purger le reste de leur peine avant d'être libérés. Pour le procureur de la République, Mohamed Saleh Youssouf, cette faveur allège uniquement la peine et non la condamnation civile.
Le régime prendra les soins de les notifier. Comme ils ont été condamnés à payer une peine d'amende, la peine d'amende est payable dans les 3 mois qui suivent. Donc ils doivent s'organiser pour payer l'amende dans les 3 mois qui suivent. Passer les 3 mois, c'est possible qu'on puisse le contraindre par corps.
Sourire aux lèvres, quelques bénéficiaires se réjouissent de leur mise en liberté et demandent à Dieu de les pardonner.
C'est un problème de bagarre avec mon ami, je l'ai blessé avec des bouteilles. Que Dieu me pardonne, la prison c'est une vraie leçon même. Ça m'a appris beaucoup de choses.
Ce cas de vol, tenter et ce n'est pas blâmable. Donc on m'a arrêté sans que je touche. Moi, ce que je demande, aidez-nous à trouver le travail.
Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Djimadiba et Katangar Emé, c'est par humaniste que le chef de l'État a décidé d'alléger la souffrance de ses concitoyens incarcérés. Pour leur permettre de se lancer dans la vie active, ces bénéficiaires seront pris en charge dans le programme de réinsertion sociale du gouvernement, a-t-il dit. André Kodmadjinga N'Djamena, VO Afrique.
En Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 7 mars pour des élections présidentielles, législatives et locales. Des élections qui tourneront la page d'une décennie de pouvoir du président Ernest Bai Koroma. La Sierra Leone a vu son développement freiné par une corruption endémique, une épidémie d'Ebola et l'an dernier par des inondations meurtrières. Le président Nana Akufo-Addo du Ghana a mis en place un procureur spécial chargé de mener la lutte contre la corruption dans son pays. Le Ghana est souvent cité un exemple pour sa bonne gouvernance, mais il a reculé de 7 points en 2 ans dans le récent classement de Transparency International. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition citoyen pour l'innovation doit être dissous. C'est la demande faite hier par le procureur général de la République, David Nguema Obiang, au procès de 147 militants de ce parti. Ils ont été arrêtés depuis les élections législatives de novembre et jugés depuis le 12 février à Mongomo, fief du président Théodore Obiang Nguema. Une peine de mort a été requise pour ces prévenus. En Tanzanie, Godfroy Luena, élu local et membre du parti Chadema, principal parti d'opposition, a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi à coups de machette à son domicile dans le centre du pays. C'est ce qu'annonce ce vendredi la police et son parti qui évoquent un assassinat politique. C'est le deuxième opposant tué dans des circonstances similaires en l'espace de 2 semaines. Toujours en Tanzanie, 8 personnes ont été inculpées aujourd'hui devant un tribunal pour le meurtre en août 2017 de Wayne Lotter, un célèbre défenseur sud-africain de l'environnement. Ces individus ont été inculpés pour meurtre et conspiration en vue de commettre un meurtre. Les Djiboutiens ont voté ce vendredi lors d'élections législatives boycottées par une grande partie de l'opposition. Le scrutin devrait une nouvelle fois conforter le pouvoir du parti du président Ismaël Omar Guelleh en poste depuis 1999. Jacques Aristide.
Quelques 194 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner 65 députés. Le vote risque toutefois d'être encore marqué par une forte abstention. L'opposition est divisée comme en 2016. Le MRD, le RAD et une branche de l'ARD ne présentent aucun candidat. D'autres partis ont choisi au contraire de participer, mais non de candidats que dans certains endroits. Quant à l'UMP, le parti au pouvoir, il est lui représenté dans chaque circonscription. Ceux qui prônent le boycott estiment que ces élections ne peuvent en aucun cas être justes et transparentes et que les partis d'opposition qui y prennent part ne font que cautionner le régime. Pour Maître Zakaria Abdillahi, le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme et ancien député de l'opposition, le chômage et la pauvreté font qu'il y a un désintérêt total de la population. Une innovation néanmoins, la loi prévoit désormais que 25% des sièges de députés soient réservés à des femmes, contre 10% auparavant. Une mascarade, d'après Maître Abdillahi, pour faire plaisir à la communauté internationale.
La police zimbabwéenne a reconnu aujourd'hui avoir tué par balle 2 personnes au cours d'incidents violents provoqués par l'interdiction faite aux minibus de prendre des passagers dans le centre de la capitale. La municipalité a pris cette mesure très controversée hier afin de réduire la circulation dans le centre-ville. Le gouvernement a annulé cette interdiction, mais la police était déjà déployée pour veiller à son respect.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Bruxelles, appui financier de l'Union européenne et d'autres donateurs au G5 Sahel avec une promesse de plus de 400 millions d'euros pour la force militaire constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes. Abdourahman Dia.
Pour le secrétaire général de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il faut éviter que le Sahel devienne un sanctuaire pour les groupes djihadistes, car le Sahel, c'est la porte à côté de l'Europe. Le Nigérien Mamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, estime que le combat que ces pays mènent, ils le mènent aussi pour le reste du monde, raison pour laquelle l'Union européenne et la communauté internationale doivent être solidaires avec le Sahel. L'Union européenne a donc répondu à l'appel avec le doublement de sa contribution financière à la force conjointe du G5 Sahel de 50 à 100 millions d'euros. Les Européens ont tout intérêt à aider à stabiliser le Sahel, devenu une terre où se sont développés les trafics d'êtres humains, de drogue, d'armes qui nourrissent ce terrorisme, a pour sa part plaidé le président français Emmanuel Macron à l'issue de la réunion organisée au siège de la Commission européenne. 32 chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette conférence et apporté leur soutien politique et financier aux dirigeants du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso, engagés dans la constitution de cette force conjointe.
L'Union européenne appelle à la fin du massacre perpétré dans le fief rebelle syrien de la Ghouta orientale, à quelques heures d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont adressé un courrier commun au président russe Vladimir Poutine pour lui demander d'approuver la résolution débattue à New York, selon l'Élysée. Deux personnes ont été blessées par balle dans la nuit de jeudi à vendredi sur le campus d'une université de Louisiane dans le sud-est des États-Unis, selon la direction de l'établissement, précisant que les lieux ont été depuis sécurisés. Ces faits qui surviennent en plein débat sur les armes à feu étaient après la fusillade ayant fait 17 morts en Floride. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barge.
Dubaï accuse Djibouti d'avoir saisi illégalement le terminal de conteneurs d'Oralé opéré par DP World. Le gouvernement djiboutien a résilié le contrat de concession en invoquant des éléments en contravention flagrante avec la souveraineté de l'État et les intérêts supérieurs de la nation. Djibouti accuse l'entreprise émiratie d'avoir versé des pots de vin pour obtenir une concession de 50 ans. Forte hausse des prix des produits alimentaires à Ouagadougou en Mauritanie, selon l'association Rama de protection du consommateur. Le prix du riz local est passé de 6 000 à 7 000 ougia le sac, celui du riz importé de 14 500 à 16 500, tandis que le prix des pâtes et des œufs a augmenté de 40% et celui du poisson courbine de 66%. L'ONG appelle les autorités à intervenir sur les marchés pour redresser ces prix. La vente des billets d'avion au Cameroun a produit 68 milliards de francs CFA en 2017, selon le syndicat national des agences de voyage et tourisme. Mais le pays perd 950 millions de francs CFA par an à cause d'une taxe qui ne s'applique pas en dehors des frontières de la CEMAC. Le syndicat a porté plainte contre les agences de billetterie transfrontalière, tandis que le gouvernement prévoit de réorganiser le secteur.
Et Nicolas Pinault nous a rejoint dans ce studio, c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la Super Coupe d'Afrique qui se joue demain à Casablanca.
Et oui, ce sera samedi à Casablanca, les Marocains du Wydad face aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Et cette fois, devrait être la bonne, l'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée pour la première fois en Afrique lors de cette Super Coupe de la CAF. Ce dispositif devait être introduit fin janvier pour le CHAN, mais les arbitres n'ont pu y recourir faute d'autorisation du board. Hein. C'est l'organe garant des lois du jeu de la FIFA.
Il faut dire que la Super Coupe oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions africaine à celui de la Coupe de la Confédération.
On rappelle que cette Super Coupe oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions africaine à celui de la Coupe de la Confédération. Après 25 ans d'attente, le Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions en novembre dernier pour la deuxième fois de son histoire. Deuxième club le plus titré d'Afrique, le tout-puissant Mazembe remportait au même moment la Coupe de la CAF.
Tirage au sort des huitièmes de finale d'Europa League.
Milan AC, Arsenal, c'est le choc sorti du tirage au sort effectué aujourd'hui en Suisse. Les autres grosses écuries de cette édition ont été épargnées, puisque l'Atlético Madrid va jouer contre le Lokomotiv Moscou, le Borussia Dortmund face à Salzbourg, les autres huitièmes, la Lazio de Rome contre le Dynamo Kiev, Leipzig contre le Zénith Saint-Pétersbourg, le CSKA Moscou contre Lyon, Marseille Athletic Bilbao ou encore Sporting Portugal, Tsen.
Et on reparle des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.
Jour historique pour le hockey sur glace allemand, les jaunes et noirs ont réussi un exploit en éliminant le Canada, double tenant du titre et largement favori lors de cette demi-finale du tournoi olympique. Les Allemands, que personne n'attendait à ce niveau de la compétition, disputeront leur première finale olympique où ils retrouveront dimanche les Russes qui, de leur côté, n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 20 ans. Les Russes ont les faveurs des pronostics. Au tableau des médailles, la Norvège toujours en tête avec 37 médailles, dont 13 en or, devant l'Allemagne et le Canada.
Et pour terminer, la NBA, le championnat reprend ses droits après la All-Star Game à Los Angeles, Nicolas.
Oui, la star de Cleveland, LeBron James, s'est incliné contre les Wizards de Washington, 103 à 110. À l'ouest, Stephen Curry a connu un retour bien meilleur avec les Warriors. Le meneur a inscrit 44 points pour mener Golden State à la victoire contre les Clippers, 134 à 127. Enfin, à Chicago, Philadelphie l'a emporté d'arien, 116 à 115.
Merci Nicolas. Bye-bye.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, mis en onde par Lionel Gaïma. Place à présent au dossier du jour. Coup de pouce financier à la force militaire conjointe du G5 Sahel. Le sommet du G5 Sahel à Bruxelles a permis de porter à 414 millions d'euros les promesses des donateurs. Le budget initial prévu est maintenant bouclé. Yacouba Ouédraogo a joint Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
On avait estimé les besoins de la force conjointe pour la première année, c'est-à-dire le lancement et le fonctionnement de la première année à 423 millions d'euros. Et là, depuis le début à la conférence d'aujourd'hui, on est à un niveau de contribution de 414 millions d'euros. On peut dire que le budget est bouclé, puisqu'en termes numéraires, on est à moins d'une dizaine de millions d'euros. Mais puisqu'il y a des contributions qui sont en nature, qui sont en équipement notamment, l'Égypte, par exemple, qui a annoncé une centaine de véhicules blindés et non blindés pour le transport de troupes. Si on met tout ça ensemble, on peut dire que le budget est bouclé.
Essentiellement, des intentions de financement. Est-ce que ces intentions, bien sûr, annoncées là, ont été suivies de décaissements?
La première annonce avait été faite par l'Union européenne il y a de cela plusieurs mois. Et ça concernait 50 millions d'euros. Cet argent est déjà dans le circuit pour l'achat d'équipements. Le reste, il s'agit d'annonces qui sont nouvelles. Et le président du FASO a insisté sur le respect des engagements pris. L'utilisation des fonds, c'est quelque chose qui est assez important. Mais il n'y a pas que les pays du G5 qui insistent sur cette question.
À qui reviendra la gestion de ces fonds-là?
Pour nous, le G5 Sahel devrait être le gestionnaire de ces fonds, à travers le fonds fiduciaire que nous avons récemment créé, lequel fonds fiduciaire est adossé à deux structures, un comité de soutien et un comité de contrôle, donc une sorte d'organe de contrôle, dans lequel peuvent siéger les pays contributeurs ou les organisations qui contribuent, de sorte à en assurer donc la bonne gestion et la transparence. Maintenant, il y a un mécanisme qui a été mis en place aussi côté européen. Ce n'est pas la position du G5 Sahel, mais nous continuons les discussions pour voir quelles sont les meilleures formules. Le plus important pour nous, c'est que tout ce qui va être mis en place soit d'une facilité de décaissement, d'une facilité d'utilisation.
Le G5 Sahel a eu du mal à réunir les fonds nécessaires pour financer la force conjointe. Est-ce qu'il n'y a pas de souci à se faire sur la viabilité de cette force-là à long terme?
Je ne peux pas dire qu'on a eu du mal à réunir les contributions parce que déjà, en peu de temps, 5 pays ont réussi à mettre ensemble leurs différentes forces pour créer une force conjointe. Mais nous continuons de demander que le G5 Sahel, notamment sa force conjointe, bénéficie d'un mandat clair et net sous le chapitre 7 des Nations Unies, ce qui lui donnerait une garantie de financement grâce aux contributions obligatoires des États.
Alpha Barry, joint à Bruxelles.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Rwanda, 5 réfugiés congolais ont été tués et une vingtaine de blessés par la police lors de la dispersion d'une manifestation des réfugiés du camp de Kiziba à l'ouest du pays. Les réfugiés protestaient contre la réduction des rations alimentaires. Raïssa Girondin a joint Cécile Pouilly, porte-parole du HCR à Genève.
Le nombre de morts est en augmentation. Nous avions parlé ce matin d'un bilan faisant au moins 5 morts parmi les réfugiés et de nombreux blessés. Malheureusement, au cours de la journée, les dernières informations nous indiquent que ce bilan pourrait s'élever à 11 morts et plus de 40 blessés, parmi lesquels des policiers, pas seulement des réfugiés.
Le Rwanda accueille plus de 170 000 réfugiés. Et tout ce monde est réparti dans 6 camps au Rwanda. Mais pourquoi cette manifestation est intervenu qu'avec les réfugiés du camp de Kiziba?
Ce camp qui compte donc à peu près 17 000 réfugiés a été établi de longue date. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés récemment de République démocratique du Congo. Mais il y a une dégradation de la situation dans ce camp en raison de coupure de l'aide alimentaire et notamment des rations alimentaires en raison du manque de fonds. Le programme alimentaire mondial a réduit ses rations de 10% au mois de novembre dernier et à nouveau de 25% en janvier 2018. À ces coupures s'ajoute véritablement un sentiment de désespoir. un manque de perspective pour ces réfugiés dont certains sont nés dans le camp et ne voient aucune amélioration de la situation dans leur pays d'accueil et sont donc poussés à bout, si vous voulez, totalement désespérés.
Ces réfugiés dépendent complètement à 90% des rations alimentaires pour subvenir à leurs besoins. Des conséquences plus importantes dans l'avenir ?
Mais on le craint tout à fait. Hein. La réduction prolongée des rations menace leur sécurité alimentaire. Nos demandes de financement ne sont pas entendues. Nous sommes seulement financés à hauteur de 2% sur un budget total de 98 millions de dollars pour l'année en cours. Donc on sait très bien qu'il y aura des conséquences, que ce soit en termes de besoins nutritionnels ou de tensions à venir qui vont s'aggraver. On en a vu aujourd'hui les conséquences très concrètes et très meurtrières.
Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres stratégies, des stratégies communes pour ce nombre grandissant de réfugiés pour qu'ils puissent devenir autonomes et qui puissent contribuer même au développement économique de leur communauté hôte?
Alors vous savez, c'est un travail qu'on fait de grande ampleur, en particulier toute cette année, pour effectivement sortir les réfugiés des camps et pour leur permettre de s'intégrer dans les services nationaux. Et parce que les réfugiés ne sont pas simplement des gens qui ont fui la guerre ou la persécution, ce sont des gens qui ont des capacités, qui ont une volonté de rebondir, qui, si on leur donne une chance, sont capables de contribuer utilement à leur communauté d'accueil. Et donc nous, bien sûr, on encourage fortement les autorités à travers le monde à prendre une autre approche et à donner à ces gens, notamment, des permis de travail pour qu'ils puissent ne plus dépendre d'aide alimentaire. On a un pacte mondial qui sera présenté en septembre 2018 par le haut commissaire pour quitter une dimension purement humanitaire de la question des réfugiés et pour offrir des perspectives durables à ces personnes.
Cécile Pouilly, porte-parole du HCR à Genève.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 87.2 FM.
Au Burundi, une convention des Nations Unies élimine toutes les forces de discrimination, toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Elles doivent avoir les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie nationale. Qu'en est-il de la situation dans le pays? Christophe Nkurunziza, notre correspondant, a posé cette question à certains habitants de Bujumbura. Reportage.
Madame Mimi Harerimana est une avocate au sein du barreau de Bujumbura. Assise dans son bureau du quartier asiatique de la capitale, elle attend l'arrivée des clients venus lui exposer leurs doléances. Parmi eux, des femmes qui ont été renvoyées de leur boulot respectif du secteur privé ou de la fonction publique sans motif valable. L'avocate reconnaît que même si normalement les femmes burundaises sont traitées équitablement dans la fonction publique et reçoivent des injonctions malencontreuses.
Oui, ces cas existent, surtout que pour la femme, pendant la grossesse par exemple, elle peut avoir des problèmes de santé et peut passer 6 mois sans bien travailler. À la fin de l'année, elle peut être mal cotée. C'est une injustice parce qu'on n'évalue pas la situation de la femme en tant que mère. Des fois, on peut même suspendre son contrat de travail. La loi vraiment est la même pour l'homme et la femme. Il y a certaines difficultés où la femme est mal vue et mal traitée par rapport à l'homme.
Cette autre femme qui travaille dans une des nombreuses pharmacies éparpillées dans les deux communes de la capitale a eu la chance d'être traitée équitablement comme ses collègues hommes pour le bien de toute la boîte. Témoignage.
Là où je travaille, je vois qu'il n'y a pas de discrimination. Je travaille avec mon collègue. On est traité de la même façon en ce qui concerne le nombre d'heures prestées. Notre patron nous considère comme ses employés. Même le salaire est le même. Nous sommes tous considérés de la même façon.
Il est vrai que les femmes et les hommes restent biologiquement différents. Dans la culture burundaise, l'homme est celui qui s'occupe de toutes les affaires courantes, sauf que les femmes regardent surtout tout ce qui a trait à la cuisine. S'il est vrai que la femme est relayée au second plan dans les affaires politiques, sécuritaires, elle commence de nos jours à être l'égale de l'homme. Le Burundi reste un des rares pays où une femme est devenue, dans les années 90, premier ministre. Mais pour Dick, qui est marié, père de plusieurs enfants, l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes ne sont pas pour bientôt.
La société dans laquelle nous vivons est une société macho, pas 10, 15 ans qui vont changer les choses. Je ne crois pas. Il faut encore des années de sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, c'est de la part des autorités, de la société aussi, des associations des femmes qui doivent travailler. Les femmes doivent se battre. Elles doivent revendiquer leurs droits. Ça ne s'acquiert pas à un claquement de doigts, donc c'est un long combat.
S'il est vrai que des avancées significatives ont été observées au Burundi en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme, d'autres mesures juridiques et constitutionnelles doivent être demain adoptées pour la protection et la promotion des droits des femmes au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Quatre chefs d'État de la CEDEAO ont adopté cette semaine une nouvelle feuille de route pour la mise en place d'une monnaie unique en 2020. Un institut monétaire chargé de remplacer les différentes banques centrales va aussi être créé en 2019. Ces échéances sont-elles réalistes? C'est la question qu'Abdourahmane Dia a posée à l'économiste Meïssa Babou à Dakar.
Je crois que 2 ans me semble assez court par rapport aux enjeux. Parce qu'en fait, il y a quand même un événement économique à observer. Sur le principe, je crois que c'est très bien parce qu'en fait, c'est une prise de conscience que maintenant c'est possible et qu'il y a un engagement. Mais sur le modèle proposé, à savoir une entrée de bâtiment à la carte, pour ceux qui seront prêts en 2020, je crois que ça, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'en fait, une cohabitation risque de nuire à la nouvelle monnaie, parce qu'il faudra, dans ce cas, beaucoup de temps pour gagner la confiance, aussi bien des bailleurs que des concitoyens.
Donc, vous n'êtes pas d'accord sur la mise en place progressive de la monnaie unique? Il faut le faire pour tous les 15 pays ou alors attendre que tous les pays soient prêts?
C'est comme en euro. Ben, l'euro, dans des pays en difficulté, c'est vrai, à percer progressivement, mais ce que je crains, c'est que cette monnaie soit affaiblie par une cohabitation. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être aider certains pays qui sont en retard pour quand même éviter une prééminence d'une monnaie sur une autre, et ce qui peut-être pourrait nuire en tout cas à la nouvelle monnaie.
Mais on peut dire que les lignes bougent quand même, non?
C'est le moment d'une autonomisation monétaire. Parce que ça nous permettrait au moins, à partir de ce maintenant-là, de pouvoir mener une politique monétaire au niveau quand même de nos banques centrales, et que nos réserves aussi pourront être désormais gérées par nous-mêmes. Et tout le monde connaît l'enjeu de la politique monétaire, surtout quand les économies sont en difficulté. Ce qui plombe davantage derrière la consommation en Afrique, c'est ça. Nous avons des taux d'intérêt exécrables.
Et justement, l'adoption d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO signifierait la mort du CFA. Et le président ivoirien, qui est considéré comme un grand défenseur du CFA, a même dit que son pays serait prêt en 2019 pour ce qui est des critères de convergence. Est-ce que cela est une surprise pour vous?
Non, peut-être l'annonce est une surprise, parce qu'en fait, Ouattara et le président Macky Sall étaient peut-être les présidents qui n'étaient pas très chauds. Mais la situation économique de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont quand même des situations qui permettent dès 2020 d'entrer dans le jeu. Ça, c'est clair.
C'était l'économiste Meïssa Babou, joint à Dakar.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en œuvre par Lionel Gaïma, présentée par John Lyndon. Bonsoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.